On est dans Juges chapitre 19 et je vous invite à prendre vos Bibles. Ce matin, on parcourt une portion assez grande. Et là, je vais juste voir si j'arrive à mettre l'écran. Ça paraît en arrière, c'est bon. J'ai de la misère avec mon écran ce matin, mais elle va revenir. Ce matin, on regarde un texte qu'on ne regarde pas souvent. En fait, aucun prédicateur n'a vraiment le goût de prêcher ce genre de texte-là, pour être bien honnête. C'est le genre de texte que personne sélectionne pour le fun, par hasard, ce texte-là pour prêcher. Le texte que je vais vous partager ce matin va peut-être vous rendre extrêmement mal à l'aise. Pour certains, peut-être pour vous, ça va vraiment être difficile. J'aimerais mieux le dire en premier ce matin. On va aborder des thèmes extrêmement difficiles à gérer. On parle ici de violence, de viol, de meurtre, de choses qui peut-être pour certains vont rappeler des souvenirs passés, des blessures qui sont en train d'être pensées et qui vont être un peu dégalées ce matin. C'est un souci que j'ai en partant ce matin de vous le dire avant, de vous avertir. Et que pour toutes sortes de raisons, si ça devient insoutenable pour vous de ne pas vous sentir mal, de sortir, je comprends que le sujet ce matin, ce n'est pas un sujet qu'on souhaite aborder, mais je crois que c'est un sujet qui se retrouve dans les Écritures parce qu'on doit l'aborder et que le Seigneur Jésus-Christ, par l'Évangile, a adressé aussi les solutions pour ce genre de difficultés, de souffrances extrêmes que peuvent vivre beaucoup de gens. Ce n'est pas une cachette que les violences sexuelles et tout ce qui entoure l'abus est vécu par un grand pourcentage de gens, hommes et femmes. Un sujet souvent extrêmement tabou, un sujet qu'on n'ose pas aborder parce qu'on vit un malaise d'en parler avec les gens. Il y a une honte, malheureusement, associée à quelqu'un qui a vécu de l'abus qui souvent est pris dans une certaine cachette parce qu'on lui a fait sentir une certaine honte, on l'a humilié par la violence de toutes sortes. Et donc, d'aborder ça est extrêmement difficile et extrêmement délicat. Et donc, j'aborde tout ça ce matin avec un sentiment de crainte et de dépendance dans le Seigneur, mais un souci qu'il est bon de lire et d'étudier chaque portion des Écritures pour adresser chaque sujet que Dieu voit bon de nous adresser. Et si le Seigneur a vu bon de mettre un annexe à la fin du temps des juges qui touche des choses aussi difficiles, c'est que le Seigneur veut qu'on soit aussi conscient que lorsqu'une nation met Dieu de côté, lorsqu'une nation méprise la loi de Dieu, lorsqu'une nation perd ses repères et se soucie plus de l'autre, mais que ce qui est bien et ce qui est mal est en fonction de comment moi je le vois, et je suis le barème de mes propres standards du bien et du mal, et que Dieu a été tassé, voici ce qui se produit. Les chapitres 17, 18 jusqu'à 21 nous dit le genre de chaos qui se produit lorsqu'une nation évince Dieu de sa loi, de son quotidien, de sa vie comme standard moral, comme créateur, la place qui lui revient. Et ça va aussi loin que ça. Et ce que je vous parle ici se passe couramment dans tous les pays du monde. Ça se passe aussi au Québec. Ça se passe sur les lieux où il y a de la guerre, particulièrement où il y a une plus grande vulnérabilité. Et ça se passe dans des endroits subtils où ce qu'on ne penserait jamais. Et c'est pourquoi il est tellement important d'aborder cela. Maintenant, je nous mets en contexte, et peut-être un technicien peut venir voir comment je peux avoir l'écran en avant, parce que je n'arrive pas à peser dessus et le faire fonctionner. Alors, je vous mets juste en contexte ici de ce que on va regarder ce matin. Donc, on a regardé le livre des juges et on a vu à travers le livre des juges différents personnages, certains plus populaires que d'autres, certains à qui on a donné plus d'espace que d'autres pour raconter son récit. Et on arrive à cette partie ici, à la fin du livre, qui est quand même gros, c'est 25% du livre qui est mis comme une sorte d'annexe, qui est hors temps. Maintenant, on l'avance avec les juges et là, hors temps, on vient parler de ces histoires qui sont passées dans le premier siècle du temps des juges et on le sait par différents indicateurs dans le texte, des personnages qui nous donnent un indice de la période de temps dans laquelle ça s'est passé. Et on a ces deux histoires et j'ai choisi la dernière parce qu'elle est plus volumineuse et pour une multitude de raisons. Mais on voit la confusion religieuse dans la première histoire et dans la deuxième, on voit la confusion morale et civile. Et on voit, voici ce qui arrive à un peuple lorsque un peuple enlève Dieu de sa place et que roi ou pas, gouvernement ou pas, Dieu ne règne pas dans nos vies. Voilà ce qui se passe. Chacun fait comme bon lui semble. Et ça nous est illustré par cette histoire qu'on regarde ce matin. Je vous situe dans le temps, on voit la progression. Et ici, justement, ces chapitres se trouvent justement dans la deuxième partie de ce siècle présent. Donc, à l'époque de Othniel, de Éhud, à quelque part dans cette région-là, se trouve cette histoire. Et Ruth va venir environ une centaine d'années plus tard. On va commencer Ruth la semaine prochaine. Donc, si vous trouvez cette semaine que c'est un peu macabre, un peu déprimant et triste, encouragez-vous, un rayon de soleil s'en vient. Le livre de Ruth va s'ouvrir la semaine prochaine parce qu'on ne veut pas lire le livre des juges sans lire le livre de Ruth. Peut-être le même auteur, il y a une suite dans la même époque pour nous dire, regardez, c'est vrai. Quand on finit le livre, on dit, c'est un bordel total. Vraiment. Mais tout à coup, on ouvre le petit livre de Ruth et là, on réalise, il y a de l'espoir dans ce chaos-là. Il y a des gens qui font des décisions différentes. Il y a de la rédemption, c'est-à-dire une possibilité de salut dans ce monde ténébreux. Et c'est le livre de Ruth qui nous illustre cela. Et qu'on va faire quatre prédications, quatre enseignements au cours des prochaines semaines, justement pour compléter le livre des juges. Donc, on se situe ici dans le temps. On a vu à travers le livre, justement, ces cycles où cette fois à travers le livre, on voit des cycles d'échecs, où ce que le peuple se rebelle, que Dieu les punit, et après ça, ils réalisent qu'ils sont sous la punition de Dieu, ils se repentent, et Dieu les restaure, finalement. Donc, on a vu tout cela, et là, on est sorti de tout cela, en dehors du temps, et on regarde la suite. Ces trois chapitres suivants. Avant de regarder les trois chapitres suivants, juste vous situer. Donc, les deux histoires qu'on ne regardera pas, on va regarder la deuxième, nous raconte la décadence morale qui illustre le livre, justement. Lorsqu'on lit à plusieurs endroits, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Il n'y avait pas une autorité centrale, un homme qui était supposé de défendre le peuple, un homme qui devait voir à ce que le peuple ait les Lévites dans tout le pays, qui enseigne la loi, un homme qui devait veiller pour protéger les vulnérables et faire respecter la loi. Il n'y avait pas de roi et à cause de ça, bien, c'était ça qu'on avait, le chaos. Et une époque où chacun faisait comme il lui semblait bon. Et littéralement, comme c'était bon dans ses yeux. Mes standards, c'est ce qui fait qu'il est bien mal. C'est plus Dieu. C'est plus la loi. C'est comment moi je vois les choses. Ça vous rappelle quelque chose? On vit dans une époque morale comme ça. Ta vérité est aussi bonne que ma vérité. Qu'est-ce qui est établi? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? La vérité est galvaudée d'un bord puis de l'autre. Et à cause de ça, on a des sites spécialisés en fake news. Le vrai du faux. Fiction. Parce qu'on reçoit tellement de nouvelles qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai dans tout ça. Et évidemment, tous les reportages qu'on entend sont toujours d'une perspective ou d'un autre, toujours un peu biaisés. Et on a besoin de sagesse de Dieu, n'est-ce pas? Pour se retrouver dans tout ce chaos d'informations. Et donc, cette phrase clé de l'auteur introduit cette deuxième sous-section qu'on regarde et la termine aussi également au chapitre 21, expliquant la raison d'être de ces histoires. Et on va regarder maintenant la lecture de ce texte, chapitre 19. On va lire ensemble. Dans ce temps, il n'y avait point de roi en Israël. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem. Remarquez bien ici, une femme qui vient de Bethléem. Dans l'autre histoire juste avant, c'était un Lévite de Bethléem qui est dans l'enjeu de l'histoire. Là ici, c'est une femme qui vient de cette ville et que cet homme a comme concubine. Sa concubine lui fut infidèle. Et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta pendant l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune fille le vit, il le reçut avec joie. Et son beau-père, le père de la jeune femme, le retient pendant 3 jours chez lui. Il mange, il boit, il passe la nuit là. Le 4e jour, il se lève de bon matin. Le Lévite se disposait à partir, mais le père et la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur. » Et vous partirez ensuite. Et ils s'assirent, ils mangèrent, ils burent, les deux ensemble. Puis le père de la jeune fille dit au mari, décide-toi donc de passer la nuit, que ton cœur se réjouisse. Alors ici, ils sont dans le party, puis c'est dur à arrêter. Et reste, on va prendre encore un verre, reste une nuit de plus, puis ça s'étire. Et là-dedans, évidemment, la femme On ne la consulte pas, on est juste spectateur des hommes qui passent du bon temps. Le mari se leva pour aller, s'en aller au verset 7, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Et le cinquième jour, il se leva de bon matin pour partir, on dirait le jour de la marmotte. Alors, le père de la jeune femme dit, « Fortifie ton cœur, je te prie, reste jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent eux deux. Et le mari se leva pour s'en aller, et là, il est plus vers la fin de la journée, sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici le jour se baisse, il se tarde, il fait tard, passe la nuit. » Et voici, le jour est sur le point du déclin. Passe ici la nuit et ton cœur se réjouisse, qu'il se réjouisse. Demain, vous vous leverez de bonne heure et vous partirez, etc. Le mari ne voulut point passer. Là, ça faisait 5 jours, il avait ambitionné beaucoup le beau-père. Alors, il dit, là ça va faire, là. Je suis écœuré, là, je m'en vais. Et donc, il est parti. Mais là, c'est la fin de la journée, n'est-ce pas? Alors, jusqu'il partit, il passait devant Jébus, qui est Jérusalem. Donc, évidemment, Bethléem, c'est pas très loin, c'est un 4 kilomètres. Et là, à ce moment-là, Jérusalem n'était pas une ville juive, c'était des Cananéens qui vivaient, et des Jébusiens, qui n'étaient pas encore chassés entièrement de là. Et donc, c'était pas un endroit safe pour rester. Donc, lorsqu'il fut près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens. » Et nous passons la nuit. Son maître lui dit, « Non. Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers. Il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons dans Gibéa. » Ben, c'est un homme sage. On ne va pas aller vers des étrangers. On va aller vers des gens de notre peuple. On va aller vers Gibéa, qui est un autre 6 kilomètres ou quelque chose comme ça vers le nord. Et il dit encore à son serviteur, allons, approchons-nous de l'une de ces lieux, Gibéa ou Rama. Et nous y passerons la nuit. Ils continuèrent à marcher. Ils se ramassent là. Et ils vont à Gibéa, qui est de Benjamin. Au verset 15, ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et s'arrêta sur la place de la ville. Donc, évidemment, c'est la place centrale, l'endroit où on fait les décisions, qu'on se rassemble pour un vote, qu'on communique toute l'information et que les gens reviennent dans la ville fortifiée, protégée, après une journée de travail dans les champs. Il n'y eut personne pour les recevoir dans sa maison pour qu'ils passent la nuit. Et voici, un vieillard revenait le soir de travail du champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm aussi, donc. Il séjournait à Gibéa. Et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville, et le vieillard lui dit, « Où vas-tu? D'où viens-tu? » Il lui dit, « Bien, nous allons de Bethléem, de Juda, jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem, de Juda, et je me rends à la maison de l'Éternel. » Bon, on ne sait pas si c'est vrai qu'il est à la maison de l'Éternel ou pas, c'est une nouvelle information, mais il s'en va vers le nord, et la maison de l'Éternel n'est pas trop loin. On pense à Bethel, où il va à Bethel, c'est un peu embêtant, mais peu importe. Mais il n'y a personne ici pour nous recevoir. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour les ânes. Nous avons aussi du pain, du vin, et pour ta servante, et pour on peut se nourrir. Le vieillard lui dit, « Mais que la paix soit avec toi, je me charge de tous tes besoins. » Tu ne passeras pas la nuit sur la place. Et il le fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes et les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers ou des fils de Bélial, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. OK, ici, ils ne sont pas en train de vouloir une présentation formelle. Je te présente mon ami Jacques, voici Jean. Ce n'est pas ce genre de connaissance-là qu'ils veulent ici. On se rappelle une autre scène qui ressemble à ça, n'est-ce pas? Sodome et Gomorre, hein? Genèse chapitre 19. On utilise le même langage. On veut connaître tes invités. Et là, on se demande tout, bien là, qu'est-ce qu'il va faire dans cette situation-ci? Et donc, le maître de la maison se présenta à eux, leur dit, non, mes frères, ne faites pas le mal. Donc, il reconnaît déjà que leur intention est mauvaise, parce qu'évidemment, le mot connaître ici veut parler d'une connaissance sexuelle. C'est le mot qu'on utilisait, évidemment, dans cette même époque-là pour parler que j'ai connu ma femme, puis elle est tombée enceinte, donc d'une connaissance intime. Et il dit ici, ne faites pas le mal. Donc, il dit, c'est mal de faire ça, ici, envers mon invité. Je vous en prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Donc, un autre mot très fort qu'on va retrouver dans la loi de Dieu pour parler de quelque chose d'abominable, de dégueu, de sale qu'on ne fait pas en Israël. Et voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amène dehors Et là, déjà, on a un gros malaise. Et vous les déshonorerez. Et vous leur ferez ce que vous voulez, ce qui vous plaira. Mais ne commettez pas à cet homme une action aussi infâme. Et nous, on se dit tout, ben, ne fais pas à ces deux jeunes femmes-là des choses aussi infâmes. C'est quoi ce genre d'homme-là? L'hospitalité, de prendre soin d'un homme est plus important que ma fille vierge, que l'intimité sexuelle de la femme, de sa concubine, de cet homme-là. On se dit, voyons, on pensait que le monsieur était gentil, mais le monsieur, il n'a pas d'allure. Hein? Alors, déjà, ça ne va pas bien. Les gens ne voulurent point l'écouter. Alors, l'homme prit sa concubine et le ramena dehors. Et là, ici, le mot est fort, il l'a poussé dehors. On dit qu'il a usé de force pour la mettre dehors. C'est vraiment ça. C'est pas naturellement ici, là. Et ils la connurent et ils l'abusèrent d'elle toute la nuit, jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui son mari était, et elle resta jusque-là, jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte et sortit pour continuer son chemin, comme si de rien n'était. Mais voici la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi, allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sous son âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau. Il saisit sa concubine et la coupa, membre par membre, en 12 morceaux. Et l'expression utilisée ici, le découpage, c'est ce que devait faire un prêtre normalement. Les verbes utilisés ici sont les verbes qu'on utilise pour quand on coupe et qu'on démembre un animal pour l'offrir en sacrifice. C'est ce que faisait un travail de lévite normalement. Et là, cet homme-là fait ça à un corps, le corps de sa femme, de sa concubine, qui est morte. Et il l'envoya dans tous les territoires d'Israël. Et tous ceux qui virent cela dirent, « Jamais rien de pareil n'est arrivé. » Il ne s'est vu depuis les enfants d'Israël sont montés dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Et là, il y a trois impératifs avec lesquels termine le chapitre et dit, « Prenez ces choses à cœur. Prenez ces choses au sérieux. Prenez le temps de réfléchir. Consultez-vous et parlez. » On ne peut pas entendre quelque chose comme ça puis juste rester bouche bée puis rien faire. Et à ce point-ci, je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de prier. Seigneur, on vient juste de lire un texte qui n'a pas d'allure, Seigneur, et c'est un texte très dur à soutenir, particulièrement, Seigneur, si on a vécu toutes sortes de violences dans le passé, qu'on a côtoyé des choses difficiles. Seigneur, ce texte est extrêmement difficile. Et Seigneur, j'aimerais te demander de m'aider à communiquer avec douceur, avec justesse, les vérités de ta parole ce matin. J'aimerais te demander de nous instruire ce matin. On a besoin de toi pour devant une histoire comme ça particulièrement. Certains, ce matin, c'est très heurtant. Il y a des choses qui ne sont pas encore guéries. Des souvenirs qui sont encore de la hantise. Seigneur, je te prie ce matin, malgré la difficulté de cette histoire, que tu puisses faire un œuvre dans nos cœurs, s'il vous plaît. Que tu puisses guérir là où il y a besoin de guérison, que tu donnes des vérités là où il y a besoin de nouvelles vérités pour briser des mensonges qu'on nous a appris, pour briser des emprises de mensonges dans nos vies dues à des violences. Ça vient affliger notre âme, Seigneur, ça vient affliger notre valeur, ça vient affliger notre manière de se voir et de voir d'autres personnes également. Ça affecte toute la question du pardon. Pourquoi tout ça? Seigneur, aide-nous ce matin. On a besoin de toi par ton esprit. Dirige-nous et parle à nos cœurs et soutiens nos cœurs. Nous te demandons dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors que je vous partage ce texte ce matin, mon propre père est en train de prêcher à l'église de Drummondville et il prêche sur le pardon ce matin. On échangeait ensemble lundi, ensemble. On devait aller chercher ma fille qui arrivait des États-Unis. Et on a fait le voyage ensemble pour aller la chercher. On a jasé. Et alors que je vous parle, lui parle du pardon, un sujet très connexe. Et si ce matin, je ne pourrais pas adresser ce sujet-là, mais si ce matin, tout ça heurte le pardon d'une situation passée, je vous invite à aller écouter cette prédication-là, qui certainement sera disponible sur le site de l'Église Baptiste de la Foi à Drummondville, notre église de sœurs, et où il va apporter la parole sur le sujet avec beaucoup aussi de délicatesse et d'expérience de vie, de choses difficiles également, sur ce que c'est, ce que ce n'est pas le pardon devant des actes qu'on peut nous avoir fait subir de toutes sortes de choses. Alors, ce qu'on vient de regarder, c'est la dégradation morale au niveau de la sexualité, la concubine de ce Lévite qui est abusée. Et il va s'en suivre une histoire loufoque également, où il y a une tribu qui va protéger les membres de cette communauté-là et pas les livrer à Israël pour qu'ils soient jugés. Et il s'en suit évidemment une guerre et finalement des solutions pas d'allure pour régler des décisions pas d'allure. Typiquement, après des violences, on a des représailles, on a de l'injustice, de la violence qui se fait en réponse à l'autre, on a de la vengeance et s'ensuit des séries de décisions qui se hâtent d'une derrière l'autre, pour qui se justifient aussi l'une derrière l'autre. Et on voit une scène finalement de quelque chose qui se passe dans un village prendre quelque chose qui est le pays au complet, comme dommages collatéraux. Une situation mal gérée, ça dégénère et ça se ramasse, c'est un peuple au complet qui va être pris ici d'un jugement. Il y a tellement de choses qui pourraient être dites ce matin sur ce qu'on vient de lire. Vous êtes à même capable de juger la stupidité, le problème moral qu'on voit, le traitement des femmes ici, le peu de valeur qui leur est attribué et des mœurs sans dessus-dessous. Et je vous avoue que je relisais ce texte, ça faisait un certain temps que je ne l'avais pas lu, j'ai pris le temps de le lire en hébreu et de le traduire. Et quand j'ai pris le temps de le traduire, c'était la première fois que je relisais ce texte-là et j'ai vécu des émotions extrêmement fortes tout au long. Parce que le choix des mots aussi en hébreu est tellement graphique, dur et cru qu'il est extrêmement troublant pour l'âme. Déjà, en français, c'est dur à soutenir. Et j'ai trouvé ça extrêmement difficile juste de le lire cette semaine. Combien plus de le commenter. Je vous adresse ce matin cette question-là, comment adresser le viol? Et je ne vous donne pas toutes les réponses ici, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'aimerais l'aborder. J'en ai parlé il y a 8 ans, lorsqu'on a regardé un texte du viol de Dinah dans le livre de Genèse. Et j'aimerais le regarder avec de nouveaux yeux. Ma perspective d'il y a 8 ans, ma perspective d'aujourd'hui, tout comme chacun d'entre nous, à toutes les décennies, il y a des choses qui nous arrivent, qui forgent notre caractère, qui changent notre vision des choses. On n'est jamais les mêmes d'une décennie à l'autre avec les nouvelles souffrances, les nouvelles épreuves qu'on vit. Et mon regard sur le texte n'est pas le même du tout que lorsque je l'ai regardé il y a des années de ça. Et ça amène un mûrissement de ma pensée et d'en parler aussi avec vous. Que faire devant des gestes autant pas d'allure, qu'est-ce que la Bible a à dire sur le sujet? Bien, premièrement, on voit ici une histoire. Ne pas permettre une loyauté injustifiée envers l'abuseur sur le dos de la famille en se montrant tolérant et politique. Dans cette histoire, on va le voir au chapitre suivant, la tribu de Benjamin décide de passer l'éponge et de protéger ce village-là qui ont fait des choses pas d'allure au lieu de livrer les gens concernés. Vous avez déjà vu ça? Parce que c'est de la famille, on va garder ça secret. Tu touches pas un membre de ma famille, même s'il est coupable. On va cacher ses fautes, on va les minimiser, on va les expliquer, on va faire toutes sortes de choses, mais si c'est dans la famille, on va protéger. Et ça, c'est mal. C'est extrêmement mal. Quand il y a un crime, il n'y a pas de nom de famille. Quand il y a faute, il n'y a pas d'alliance familiale. Il y a faute, il y a faute. Quand il y a un crime, ce n'est pas à nous comme Église ou comme famille de juger, c'est à la loi de le faire. N'est-ce pas? C'est comme ça que des gens se ramassent dans des situations où ce que des années plus tard, on leur revient dessus parce que la famille l'a géré, le crime, à leur façon. Parce que l'Église l'a géré, l'Église, ce crime-là, à sa façon. Alors que c'est de la juridiction de la loi, Ce n'est pas à nous de faire ça. Ce n'est pas à nous de couvrir des gens. Il y a des moments où il faut appeler la police et que ce n'est pas à nous de prendre en charge des choses. C'est là qu'il se passe la vengeance, la cachette, où ce que là, il y a des gens qui vivent des injustices parce qu'on couvre le mal sur le dos de quoi? Un nom de famille? Une tribu? Et là, pour créer un sentiment d'injustice de des gens autour qui vont sortir de là, comment? On ne règle pas les choses en faisant ça. On crée un plus grand mal. Et on n'adresse pas les vraies choses. Ne soyons pas de ceux-là. L'idée ici, ce n'est pas d'aller en croisade dans les divulgations, c'est de remettre à la loi ce qui revient à la loi et qui n'est pas de nos affaires, on ne s'en mêle pas. On le donne à qui de droit. J'ai eu, au cours des 10 dernières années, plus qu'une fois à faire ce genre de choses-là. C'est troublant. C'est jamais agréable d'appeler la police. On vit toutes sortes de choses en dedans, toutes sortes de craintes. Mais si ce n'est pas à moi de juger la situation, je dois appeler les gens compétents. Ça ne veut pas dire qu'ils vont bien le régler. Ça ne veut pas dire que je vais être d'accord avec la manière dont ils vont faire les choses. Ça ne veut pas dire qu'ils vont régler quoi que ce soit. Mais ce n'est pas notre juridiction. C'est important de le comprendre. Là, ici, c'était de la juridiction de la nation de gérer quelque chose parce qu'il n'y avait pas de roi. Et les gens qui étaient en autorité sur cette tribu-là, sur ce village-là, ont décidé au chapitre suivant de les couvrir et de ne pas les exposer au mal qu'ils ont fait, ce qui est extrêmement mal, inacceptable. Quand il y a eu le viol de Dina, on l'avait vu dans l'histoire avec Jacob, Jacob était resté silencieux, n'a pas fait respecter ici qu'il y avait réparation. Et s'ensuit une grande colère de des fils qui vont prendre en main la vengeance de la réputation de leur sœur. Pourquoi? Quelqu'un n'a pas exercé la justice. N'est-ce pas? Et ça crée de la colère. Le Seigneur a vu bon dans la loi de mettre plusieurs endroits où ce, que ce mot-là, abus, qui apparaît près de 80 fois dans l'Ancien Testament, environ 26 fois, grosso modo, sur l'ensemble, on parle vraiment de violence sexuelle. C'est le mot pour parler de violenté, c'est le mot pour parler d'oppression, de méchanceté extrême et accablante sur quelqu'un, et parfois le contexte établit que c'est de la violence sexuelle, comme dans le contexte actuel où c'est utilisé. Et dans la loi de Moïse, plusieurs endroits, on est sensibilisé à ne pas violenter personne physiquement, par intimidation, sexuellement, et qu'il y a des sanctions dans la loi pour protéger les gens vulnérables. Le Seigneur a vu bon d'adresser ces mêmes verbes, ces mêmes faits dans la loi de Dieu pour protéger. Le Seigneur a un souci de protection. Et s'il n'y a pas de protection en société, ce n'est pas parce que le Créateur n'y a pas vu. Le Créateur a mis des règles. A instruit sur cela. C'est parce que l'être humain décide de ne pas respecter la loi de Dieu. Mais soyons bien conscients, ici, je pourrais faire une liste, là, jusqu'à la fin de la page, juste de référence sans cesse, ça n'aurait pas aidé, là, pour regarder tous les verbes, les endroits où le verbe est utilisé. Dans une variété de manières conjugales, de viol, d'une célibataire, etc., les réparations, les manières de faire. On peut ne pas être à l'aise avec la manière dont la loi le gérait, il y a 3400 ans, comment le Seigneur a mis des règles, des réparations, des manières de gérer, mais il y avait des sanctions, c'était nommé, il y avait des responsabilités, il y avait des coupables, c'était adressé devant la loi, il y avait des mesures établies pour protéger, restaurer, réparer le mal fait à cet égard-là. Tout comme nous avons une loi aujourd'hui. Mais évidemment, ça dépend aussi comment ceux qui gèrent la loi le font respecter, n'est-ce pas? Et donc, ce que je veux vous sensibiliser ici, c'est que la loi parlait de cela. Et de plus aussi, Israël était sensibilisé qu'elle-même avait été violentée. C'est vraiment les mots qui sont utilisés pour parler d'Israël, comment ils ont été battus, opprimés et violentés, et tués par les Égyptiens. Puis on dit, vous avez vécu de la violence comme ça. Toutes les formes de violence, de domination. Et vous ne devez jamais faire ça à un étranger qui vient chez vous, peuple d'Israël. Parce que vous l'avez vécu, vous allez traiter, vous, plus que toutes les autres nations, l'étranger avec beaucoup d'égard et ne jamais lui faire ce qu'on vous a fait. Et donc, Israël avait une grande sensibilité dans la loi qui l'instruisait à ne jamais faire une telle chose parce qu'elle-même avait vécu de l'abus. Puis dit, soyez pas assez fous, après avoir l'expérience que vous avez vécue, de faire ça à quelqu'un d'autre. Ça serait de la folie. Vous ne seriez pas reconnaissant envers la grâce de Dieu qui vous a délivré pour que vous ne fassiez pas la même chose. Vous voyez? Et donc, la loi sensibilise là-dessus et utilise les mêmes verbes d'abus. Donc, on comprend ici, ce n'est pas abus sexuel, que c'est un abus plus large. C'est le contexte qui établit le degré d'abus du sens qui est utilisé là. Vous me suivez? La Bible n'épargne pas les histoires non plus. Et la loi, entre autres, est venue après l'histoire de Dina. Et certainement, l'histoire de Dina dans l'histoire d'Israël a été utilisée dans la loi pour comment on fait une contraction à une situation comme Dina. Et la loi prévoit des règles en fonction de cette expérience-là qui est arrivée dans la Genèse. Beaucoup de lois dans la loi de Moïse sont en fonction de des choses pas d'allure qui sont arrivées dans le livre de la Genèse. Et là, la loi vient mettre des sanctions, des règles, vient mettre des mots, des principes, des manières de réparer les choses. Il y a l'histoire aussi de Tamar, avec la famille de David. Et on voit comment cette situation n'a pas été bien traitée. Encore, qu'est-ce qui arrive? Un fils décide de faire de la vengeance parce que lorsqu'il n'y a pas justice, il y a un sentiment grand de vouloir venger l'honneur d'eux, de vouloir faire payer. Et c'est naturel parce qu'il y a une injustice qui a été faite. Et quand il y a une injustice, il doit y avoir une action de punition. Sinon, ça demeure injuste. Et donc, si la loi n'est pas exercée, si quelqu'un couvre la personne, qu'est-ce qui arrive? On vit avec un grand sentiment de colère, que l'injustice est devant moi, puis que je ne suis pas respecté, qu'on protège des coupables, et etc., etc. Et la loi de Dieu a mis des règles pour cela, pour prévenir ça. C'est intéressant aussi que Dieu utilise le même mot dans Ésaïe, chapitre 64, pour dire, moi, le Seigneur, je ne violente pas à l'excès. Moi, je ne fais pas ce genre de choses-là. Je permets des épreuves. Mais moi, je ne violente pas à l'excès, je ne fais pas d'abus, je n'utilise pas ce verbe-là quand je punis mes enfants. Ce n'est pas ce mot-là qui est utilisé, ni ce verbe-là. L'Éternel n'est pas comme ça, comme père. Maintenant, ce qui vient faire toute la différence, c'est le prochain verset. Et j'aimerais ça que vous l'écriviez dans la marge de votre Bible et que vous l'écriviez à chaque fois que vous lisez un texte malaisant qui touche l'abus. C'est ce texte ici de Ésaïe 53, versets 4 et 7. Et c'est vraiment important ici, OK? Voici la réponse de Jésus et de l'Évangile à la violence sexuelle, la violence de toutes sortes. C'est ce que Jésus a fait à la croix qui est la réponse, qui est vraiment important. Le même verbe va être utilisé pour parler de ce que l'agneau a subi. Et prenez le temps de le lire avec moi attentivement. Cependant, en parlant du Messie souffrant, ce sont nos souffrances qu'il a portées en parlant de Jésus, de cet agneau parfait. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni. On l'a regardé comme étant frappé de Dieu et humilié et violenté et violé. C'est le mot qui est là ici. On l'a considéré comme violenté. Évidemment, on comprend ici qu'on ne parle pas de violence sexuelle envers Jésus, mais d'une violence du même type, d'abus de pouvoir, de brisement de l'âme de la personne, d'abus de force contre et de force tellement violente qui va amener jusqu'à sa mort. Et Jésus, on attribue à ce qu'il a subi à la croix pour nous ce même verbe. Et là, tout à coup, si j'ai subi de la violence, de réaliser Jésus a été violenté à ma place pour moi aussi. Si j'ai subi un viol, de réaliser Jésus aussi, pas de la même façon, mais son intimité a été violentée, son intégrité corporelle a été violentée, violée pour moi. Et tout à coup, il y a une dimension de ce que Christ a fait pour nous à la croix, pour nos fautes, devant le mal que l'être humain a fait et les fautes qu'il a portées, qui vient tout changer, il me semble, lorsqu'on a vécu une telle violence. Et il fait ceci pour le violenté et pour le violenteur. Imaginez. Dans son sacrifice, il couvre les besoins de la faute de celui qui a violenté, qui a besoin de pardon, qui est impossible sans Christ. Et de la personne qui a été abusée, qui a besoin de guérison et qui ne peut pas vivre de guérison sans les meurtrissures de Christ. Et le salut également. Tout est couvert dans l'action de Christ. Et il continue. Il dit après ça, au verset 7, « Il a été maltraité, il a été abusé, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on a mené à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il ne l'a point ouvert la bouche. » Que dire de plus de ce que Christ a accepté de vivre par amour pour vous et moi? Ça, c'est le vrai message de la Bible. C'est l'Évangile de Jésus-Christ. Dieu, le Créateur, à qui on a bafoué les règles et qu'on s'est ramassé d'un chaos comme juge, voit bon que son fils porte les péchés de l'abuseur et de l'abusé. Comprenons ici, je comprends que l'abusé est aussi un pécheur sur terre, donc il a fait des péchés dans l'acte. Et de couvrir la blessure de la victime et de couvrir la condamnation éternelle et la condamnation terrestre que mérite l'abuseur. Jésus a porté toutes ces fautes-là comme si c'était lui-même qui l'avait fait. Jésus est devenu un abuseur. Il a porté les péchés de l'abuseur. Il a porté aussi les meurtrissures de l'abusé. Tous ses sentiments vécus d'humiliation, de brisement, de honte. Il a porté tout ça pour permettre la guérison de l'âme et de l'esprit. C'est quelque chose, hein? Et il me semble qu'on ne réfléchit pas sur le sacrifice de Jésus comme ça. Et tout à coup, quand j'ai réalisé que les verbes étaient utilisés pour parler de notre Seigneur comme ça, ça a changé toute ma perspective de comment aborder la chose. Il y a un deuxième aspect aussi, en passant sur YouTube, vous allez trouver le ministère de Je suis deuxième qui offre différentes vidéos. Il y a une vidéo d'une jeune femme qui s'appelle Véronique Baudin. Il y a 6 ou 7 ans, cette vidéo-là a été rendue disponible. Son histoire d'abus et avec Je suis deuxième. Je pense que ça vaut la peine d'être entendu, ce que Dieu a fait dans son cœur comme guérison. Il y a un deuxième aspect aussi sur tout cet abus-là, dont le texte aussi nous montre et donne des signaux par les mots choisis. C'est que l'abus amène de la honte chez la personne qui est victime. C'est ce qui explique le silence souvent des victimes. On dit dans le texte au verset 25, si vous regardez, « Ils se jouèrent d'elle ». Ils n'ont pas juste abusé, ils ont joué d'elle. Et le mot utilisé là ici est très, très fort et troublant également dans le graphisme de l'histoire. Le mot souligne toute l'humiliation qu'elle a subie comme victime. Le verbe souligne un traitement avec sévérité. Faire perdre quelqu'un, de traiter quelqu'un comme un bouffon. Et ici, évidemment, on parle d'être utilisé comme divertissement. Agir d'une façon folâtre, traiter impitoyablement, abuser, se moquer. Traité avec bassesse. Donc, on profite d'elle, égoïstement ou de lui, pour un gain personnel, pour briser la valeur de l'individu créé à l'image de Dieu. Et donc, c'est un acte direct aussi contre Dieu qui l'a créé. On tente de s'attaquer à quelqu'un pour le briser, l'humilier, le garder sous le contrôle, une domination, et de briser quelqu'un dont l'image de Christ, l'image de Dieu est en lui, est en elle comme créature de Dieu. C'est pour ça que quand on prend un âme de quelqu'un qu'on le tue, c'est une attaque contre son créateur, dont on dit il est créé à l'image de Dieu. Quand on s'attaque à un individu, on s'attaque à un individu créé à l'image de Dieu. C'est à Dieu qu'on s'attaque et qu'on humilie, qu'on brise en faisant ça à un âme. Vous comprenez? Évidemment, l'abuseur fait ça pour écraser l'autre, le blâmer, lui faire porter une faute, une honte, pour qu'il ne parle pas et puisse rester en domination dessus. Et cette personne veut évidemment briser ce qu'il y a dans cette personne-là pour enlever toute valeur. Et c'est ce qui amène, c'est la victime, une brisure sur sa valeur propre qui fait qu'elle ne parlera pas, qu'il y a des doutes d'avoir peut-être eu du plaisir et là de se sentir coupable dans l'abus d'avoir été traité comme « Ah, ben tu avais une part, tu n'aurais dû pas faire ça ou tu n'aurais dû pas aller là. » Et là, donner toutes sortes d'explications de choses qui fait que peut-être tu as une part et qu'on te garde dans la honte et ça, c'est mal. C'est un mensonge. C'est une chose que l'abuseur veut faire croire pour garder la personne brisée, isolée, dans un sentiment de honte, surtout dans le silence, pour pas qu'elle amène à exposer la personne qui a abusé et qui, lui, vit dans un cynisme, dans une domination et un contrôle pour pouvoir reproduire encore le même modèle. Et certains d'entre vous, pour vous, peut-être c'est quelque chose de loin, vous n'avez jamais vécu quelque chose comme ça. Pour d'autres, ce que je vous dis, il y a plein d'images qui vous viennent présentement à la pensée. Et j'en suis sincèrement désolé. Et que le Seigneur puisse utiliser ce moment de réflexion avec ce que Christ a fait pour contribuer à votre guérison. Mais il faut en parler. Il faut en parler. Vous n'avez pas à porter de honte si vous avez vécu quelque chose comme ça. En en parlant, vous aidez d'autres personnes à parler, d'autres personnes qui peuvent être comprises par vous, qui ont besoin d'une oreille, d'un encouragement, pour briser les mensonges que vous portez à l'intérieur. Et je dis ces choses-là pour les briser, ces mensonges-là, parce que c'est faux. Vous n'avez pas de responsabilité là-dedans. Oui, contrairement à Christ, nous sommes tous pécheurs sur terre, se faisant du mal les uns aux autres à différents degrés. N'est-ce pas? Alors, nous, on est tous pécheurs, contrairement à Christ. Néanmoins, il y a des victimes et il y a un abuseur. Et il faut les identifier pour guérir et avancer. Ça ne veut pas dire que d'en parler va solutionner tout. Ça ne veut pas dire que justice va se faire. Ça ne veut pas dire qu'on va vous croire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous juger. Effectivement, toutes ces choses-là peuvent arriver. Mais n'allez pas croire le mensonge que c'est de votre faute. N'allez pas croire ce mensonge-là et toutes les choses qu'on vous dit que tu ne vaux rien, etc. Ce sont des mensonges pour te garder isolé. Ce sont des mensonges parce que l'ennemi veut te briser dans cette épreuve que Dieu permet sur terre qu'on vive. Pour pas que tu te tournes vers Christ. Pour pas que tu vives la guérison de l'âme. Que tu vives la liberté et d'utiliser le mal qui t'a été fait et le tourner en gloire pour prendre soin de d'autres personnes. Et ça, c'est juste Christ qui peut faire ça. Que tout à coup, une expérience traumatisante peut être utilisée pour faire du bien à quelqu'un d'autre et contribuer à sa guérison, à le libérer du mensonge, à se battre pour d'autres et aider et contribuer à cette justice-là. Mais la cour ne répare rien. Soyons bien clairs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller en cour. La cour n'unit pas deux personnes, ne guérit personne, ne ramène pas des gens plus proches, n'aide pas pour le pardon. Mais elle peut aider pour soulager que le mal a été puni, a été identifié, a été nommé et a été puni d'une façon quelconque, bien qu'imparfait sur terre. Il y a une place pour les deux et Jésus a vu bon d'adresser les deux. Il y a beaucoup qui pourrait être dit ce matin sur cette question-là. J'aimerais juste terminer l'histoire en résumant et non analysant le reste de l'histoire et y revenir dans un instant sur cette question-là. Et je suis conscient que je n'adresse pas tout, le but n'est pas de faire un enseignement sûr, mais d'adresser ce sujet délicat parce qu'on voit une scène pas d'allure et on voit comment elle dégénère. Maintenant, ce qu'on voit dans le chapitre suivant, je vous le résume, c'est que tout ce monde-là va se rassembler parce qu'il a envoyé les partis partout. Ils vont se rassembler ensemble pour tous dire, ben ça n'a pas d'allure, il faut faire de quoi. Et tout le monde est unanime. Et ils vont envoyer justement une communication auprès de Benjamin, qui est la tribu qui est en charge de ce secteur-là et qui est en charge de cette ville-là, pour dire, écoutez, il y a des gens chez vous qui sont des fils de Bélial, ils ont fait des choses pas d'allure, sortez-les pour qu'on puisse les punir, parce que c'est inacceptable. Et eux autres disent, non, c'est des fils de Benjamin, vous nous passerez dessus, mais vous ne touchez pas à notre monde. On ne les voit pas faire une enquête, vérifier rien, c'est juste la loyauté tribale qui est importante ici. On aime mieux laisser une injustice courir, de ne pas faire nos devoirs, parce que c'est un Benjamite, il a mon nom de famille. Et donc, ils vont le défendre. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, toutes les tribus d'Israël, 400 000 hommes, vont venir se battre contre 26 000 hommes de la tribu de Benjamin. Une guerre civile à cause d'un viol mal géré dans une ville où il n'y a pas de jugement, où une tribu ne s'occupe pas de juger son monde, c'est une guerre civile qui va en suivre. Imaginez, d'une histoire mal gérée dans un village. Parce qu'on n'a pas voulu adresser les choses. On a une loyauté qui n'avait pas sa place. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, ils vont perdre 22 000 hommes, Israël, au début. Là, tu dis, ben voyons donc, ils ont consulté le Seigneur. Ça veut dire spécifiquement au verset 18, ils demandaient au Seigneur, est-ce qu'on va, on y va, puis c'est qui va aller pour l'aider Israël? C'est Juda qui va y aller, parfait. Ils perdent. Le Seigneur ne leur a pas dit qu'elle ait gagné. Il a juste dit, allez-y, puis c'est Juda qui va aller en avant. Ils perdent 22 000 hommes. Là, ils disent, ben là, on est venu pour exercer justice. Mais Israël n'est pas en train de voir que ce qui se passait dans ce tribut-là, ben c'est des choses qui se passaient un peu partout dans le pays. Et que les problèmes moraux, civils qu'il y avait là, bien, il y avait des problèmes religieux aussi. Les gens adoraient des statues, avaient des dieux, s'assimilaient au peuple autour. C'était tout le peuple qui avait un problème. Mais eux autres voyaient juste la poutre dans l'œil de l'autre. Ils ne voyaient pas celle dans la leur. Ils voyaient la paille, mais ils ne voyaient pas leur poutre. Et là, eux autres disent, bien là, Dieu a dit d'y aller. Bien, c'est correct, on le fait, on fait justice, mais ils perdent 22 000 hommes, ça leur coûte cher. Puis l'autre a gagné, comment ça? Ils consultent une deuxième fois, allez-y, puis ils vont. Ils vont perdre 18 000 hommes, on est rendu à 40 000 hommes, pères de famille, grands-pères. Jeune homme, fils qui meurt. Imaginez. C'est plus que toute l'autre tribu au complet. De tout le pays. Et finalement, ils vont consulter le Seigneur une troisième fois. Et là, cette fois-ci, ils vont jeûner. Ils vont offrir des sacrifices. Et le Seigneur va dire, allez-y. Là, il leur confirme qu'il va les battre. Et là, ils vont. Et ils vont faire une embuscade. Et dans cette embuscade-là, évidemment, ils vont attirer le peuple en dehors de la ville, ils vont les battre, et finalement, un autre groupe va rentrer dans la ville parce qu'il y a une embuscade, un peu comme l'histoire d'Haï dans Josué, n'est-ce pas? Vous avez entendu par leur surconfiance, on va les battre comme les deux autres fois. Et ils sont sortis, se sont aventurés, se sont exposés, et finalement, des gens sont allés faire brûler la ville, et quand les flammes ont monté, ils sont tous envirés contre eux, et ils vont tous les éliminer. Le bilan de la journée, c'est quoi? 40 000, 30 hommes décomptés comme morts du côté d'Israël, et 25 000 ça. Ça commençait avec un viol dans un village. Et ça a dégénéré. Parce que la justice n'a pas, les coupables n'ont pas été adressés. Ils n'ont pas été jugés. Et c'est toute une nation au complet. Que Dieu permet qu'ils se fassent du mal l'un à l'autre, parce que c'est toute la nation au complet aussi, dans le cas présent, qui a éloigné, qui s'est éloigné de Dieu, qui ne respecte pas la loi de Dieu. Qui vivent finalement comme les gens du pays qui étaient allés auparavant, que Dieu avait jugé. C'est incroyable. Des chiffres qui font peur. Contrairement à la première fois, les Israélites vont jeûner jusqu'au soir et implorer le secours de Dieu. Et ils firent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce au Seigneur. Et ce qu'on apprend de ça, c'est quand vous êtes aux prises avec des difficultés insurmontables, remettez-vous à Dieu dans la prière. Et vous pourrez, vous aussi, avoir la victoire grâce à son invincible puissance. Pensez, pour accomplir ses commandements, Dieu met à notre disposition sa toute puissance. Mais j'ajoute la nuance ici. Les premières fois aussi, ils ont cherché le Seigneur. Dieu n'a pas répondu comme il voulait. Il y avait des enjeux qu'il ne voyait pas. Il permet aussi qu'ils se jugent l'un l'autre, Benjamin et tout Israël, dans cette histoire-là. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que j'ai demandé quelque chose à Dieu que ça veut dire qu'il va répondre comme je veux. Deux fois, il a dit « Oui, allez-y ». Il ne leur a pas promis la victoire. Il dit « Je veux que tu y ailles quand même ». Il y a des choses que tu dois vivre là-dedans, que tu dois passer au travers comme épreuve. Mais voyons donc, Seigneur. Peut-être sur une base personnelle, je vais vous partager quelque chose que nous, on a prié. Ma femme a prié pendant des années. Et surtout dans les mois qui précédaient avant l'adoption de Matthias en 2008. Seigneur, donne-nous un fils en santé, donne-nous un enfant en santé. Et quand Matthias est arrivé, il était en parfaite santé, puis au bout de 4 mois, il a commencé à ne pas être en parfaite santé. Et finalement, on a découvert avec les années, finalement, après des hospitalisations, des arrêts respiratoires, hospitalisation à Sainte-Justine, que notre fils, finalement, était, des années plus tard, autiste avec un retard intellectuel. Et donc, j'ai un fils de 14 ans que je dois laver aujourd'hui. Seigneur, on t'a demandé un enfant en santé. Pourquoi tu ne nous donnes pas un enfant en santé? On t'a demandé quelque chose. Il me semble que c'était bien ce qu'on nous demandait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi, Seigneur? Et là, ils vont dire ça dans le chapitre. Pourquoi? Là, cette grosse question existante. Mais pourquoi, Seigneur, dans les premiers versets? Pourquoi, Seigneur, tu nous permets ça? On ne comprend pas. On a de la misère à saisir. Ça peut parfois même prendre beaucoup d'années avant qu'on ait des lueurs de réponse qui, tout à coup, nous aident à accepter ce qui est arrivé, puis de faire confiance que Dieu est souverain. Il sait peut-être ce qu'il fait s'il est créateur. Il sait peut-être ce qu'il fait s'il a envoyé Jésus-Christ à la croix dans tout ce chaos-là. Il sait peut-être ce qu'il fait s'il est capable d'amener Christ à travers toute l'histoire humaine pour que ça arrive au bon moment, comme il l'a permis, tout s'accomplit. Peut-être c'est ce qu'il fait même dans le chaos apparent, dont je ne comprends pas les détails. Pourquoi il ne me donne pas ma requête? Il me semble qu'elle est légitime. Aujourd'hui, j'ai une partie des réponses. Je suis conscient que Dieu avait des choses qu'il voulait travailler dans moi. Des choses sur lesquelles il voulait me ralentir. Me montrer que moi-même, j'avais des handicaps. Et m'arrêter de travailler moins. De changer ma perspective des choses sur la performance. Plein de choses que Dieu brise à travers ma terre. C'est dur. Extrêmement dur. Vous savez, c'est quoi? Beaucoup d'entre vous avez d'autres circonstances que Dieu permet dans vos vies, que vous avez demandé autre chose, puis ce n'est pas ça qui se passe. Est-ce que je vais passer ma vie? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Comme si Dieu a des comptes à me rendre. Ou est-ce qu'il mérite ma confiance, puis qu'en attendant que j'aie la réponse, je vais lui faire confiance. Et que peut-être Dieu, dans sa grâce, éventuellement, me donnera des brides, progressivement, des lueurs pour m'aider à comprendre des intrigues derrière les rideaux qui m'échappent complètement. Peut-être que vous êtes là ce matin, vous dites, moi Joël, je n'ai aucune réponse encore sur certaines affaires. Comme si Dieu avait des comptes à nous rendre. Pourquoi, Seigneur? Ben, peut-être Dieu va t'expliquer, peut-être tu ne l'expliqueras pas maintenant, peut-être il va l'expliquer plus tard. Peut-être tu ne l'expliqueras pas jusqu'à temps que tu sois dans les cieux avec lui. Mais j'aimerais nous rappeler que Dieu mérite notre confiance complètement, entièrement, indépendamment qu'on ait une partie des réponses ou pas. Et qu'il y a des choses que Dieu ne nous accorde pas, comme vous, vous ne dites pas oui à toutes les demandes de votre enfant. Sinon, vous seriez un parent irresponsable et un parent ruiné aussi pour toutes les bébelles qu'il faudrait acheter. Et votre maison ne serait pas assez grande. Pourtant, vous dites non à votre enfant, n'est-ce pas? Vous dites non de l'aider d'une circonstance parce qu'il faut qu'il apprenne une leçon, puis c'est dur. Vous pensez que Dieu prend plaisir à nous dire non, de nous voir vivre des moments difficiles? Non. Il est comme vous et moi, quand on le dit non, on a un enfant, mais on sait que ça va être parfait. Imaginez, il prend encore moins plaisir. Et donc, toute une situation ici qui s'enchaîne. Et le chapitre suivant va montrer comment ils vont réparer maintenant le problème. Parce qu'ils vont se ramasser avec, je passe la 4, ils vont se ramasser avec 600 hommes qui n'ont plus de domicile, qui n'ont plus de femmes. Ils ont tué toute la ville. Ils ont tué hommes, femmes, enfants, vieillards, handicapés. Tout le monde dans les villes de Benjamin est éliminé. Il reste 600 hommes de combat. Ils ont traité comme ils auraient traité une ville cananéenne, brûlée, parce qu'ils se sont comportés comme les Cananéens. C'est dur. On voit nulle part que Dieu a dit de faire ça. C'est eux qui décident de faire ça, remarquez bien. La seule place que Dieu est consulté, c'est pour aller vers le combat. Et donc, ils vont compter et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait comme problème? Parce que là, on vient tous s'engager, puis ils décident de faire un engagement. Personne ne va donner sa fille à personne ici, là. On ne leur donne pas aucune de nos filles. OK, ils prennent un serment. Ça fait penser tout à coup à quelqu'un qui a fait un serment. Vous vous rappelez? Jephté? Dieu n'a pas demandé ce serment-là. Il a fait un serment, il est pogné avec son serment. Fait que là, ils vont solutionner le problème comment? Ben, ils vont trouver une ville qui n'est pas venue au combat. Jabez. Eux autres, on va les raser, puis on va prendre des filles vierges, puis on va les donner à ces gars-là. Fait qu'ils vont raser la ville. Je n'ai pas donné de commandement pour faire ça. Mais parce qu'elle ne s'est pas pointée, ben c'est qui n'est pas parmi nous, cette ville-là? Personne n'est venu. Bon, ben on va se débarrasser de cette ville-là, puis on leur donne les filles vierges. Première solution. C'est questionnable. Hein? Je ne sais pas pour vous, là, mais j'ai un malaise. Et là, finalement, il manque de filles. Il y en a juste 400, puis ils sont 600. Fait que là, il faut qu'ils trouvent une autre solution. Ils n'ont pas consulté Dieu encore. Là, c'est... Et ils disent, ah, ben, il y a une fête à Silo, il y a une fête religieuse, là, puis les vierges se promènent dans les arbres et dans la forêt qui est là, puis tout ça pour cette fête-là. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre aux hommes, les 200 qui manquent d'une femme, d'aller s'en piquer une. Il y a un malaise aussi. Oui, c'est le mot utilisé, voler. C'est une marchandise qu'ils sont allés chercher dans les pommiers. Effectivement, vous savez, quand une société s'éloigne de Dieu, que la loi de Dieu est tassée, que Dieu est tassée. Vous savez ce qui arrive, les femmes? La position féminine diminue. Les hommes sortent plus de muscles. Le respect de la femme diminue. Et on ne la traite pas bien. Les vulnérables dans la société sont maltraités. Et les femmes sont traitées comme des objets, comme des porteuses d'enfants, et etc. Effectivement, dans tout le langage ici, là, les verbes utilisés, les femmes sont utilisées comme une marchandise. Bon, ben on va se débarrasser de tout le monde dans cette ville-là, on va garder juste les vierges. OK, le monde n'a plus de valeur, excepté si on est vierge, là, c'est là. Puis on les utilise juste, il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de... Non, non, on a besoin, puis on donne, puis d'attitude, c'est une marchandise. C'est extrêmement... Mais c'est comme ça dans beaucoup de pays du monde, où ce que le respect de la loi de Dieu n'est pas là, et où ce qu'on traite la femme comme ça. Parce que Dieu ne fait pas ça. La loi de Dieu voulait contrecarrer ça. Et donc, ils vont solutionner... 400 vierges, et ils sont allés chercher un autre 200 vierges de cette façon-là. Et toute une histoire rocambolesque. Et finalement, on découvre donc qu'ils font un serment impulsif, et cela les conduit vers deux solutions humaines sans consulter Dieu. Et ça donne ce que ça donne, une guerre civile qui s'ensuit d'un autre massacre civil et de gens pas respectés, et de femmes, 600 femmes, qui finalement sont quasiment utilisées pire que des filles de roi d'il y a 400 ans, envoyées en Amérique du Nord, au moins volontaires, avec une dot, avec un minimum de choix. Ici, c'est pire que ça, là. Et on voit ici, ils ont créé leur propre problème en ne consultant pas l'Éternel, et puis ils tentent de le rectifier, le problème, sans consulter le Seigneur, et on a ça comme produit. Ils s'embourbent, vous voyez?
On a mal géré la situation d'abus, guerre civile. On n'a pas consulté Dieu dans bien des domaines, on fait des choix. Mais là, il faut compenser parce que là, finalement, on ne va pas éliminer. Il reste juste 400 hommes, on va laisser une tribu disparaître. Et là, il faut trouver des vierges, mais là, nous, on n'a pas donné nos vidéos. Hey, c'est compliqué en tabarouette, ça, là. Il faut du tricotage. C'est pas un peu représentatif de nos histoires aussi? Ça devient compliqué, des fois, les ramifications. Puis c'est dur de s'arrêter. Il y a un père, à un certain moment, il y a quelques années, qui a pris le temps de m'appeler. Il y avait une situation comme ça. Puis il demandait conseil. Il voulait s'arrêter pour être pris dans des réactions à se venger. Il s'arrêtait pour parler, avoir quelqu'un qui pleurait, s'ouvrir, arrêter d'être en réaction. Puis il a dit, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je fasse? Et on a pris le temps ensemble. Pourquoi? Pour ne pas s'emporter dans une chaîne de réactions. Attention à vouloir régler nos problèmes humains seulement avec notre logique. Il n'est pas surprenant que nous embourbions davantage dans notre gouffre. C'est seulement en se retournant vers le Seigneur qu'on peut renverser la vapeur sans regret et d'entrer dans sa logique et ses plans. Je termine avec cette diapo. Que dire après tout ça, évidemment? Voilà où mènent les luttes tribales et la logique humaine sans la loi de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de la loi de Dieu, les amis. C'est pour ça qu'on a besoin de lire la Bible pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et voir qu'est-ce qui n'a pas été respecté pour en arriver là. M. Fee et Stewart, qui résument cette section-là, disent ceci, je trouve qu'il est vraiment bien. La nature macabre de la seconde histoire illustre à la fois la profondeur de la décadence morale d'Israël qui, dans le livre d'Ésaïe, va être rappelée. Il va rappeler cette histoire-là de Gibeah qui est une honte pour Israël de ce qui s'est passé dans l'histoire. Il va parler de Gibeah dans Osée, où ce qui reproche Israël un comportement aussi pas d'allure à cette époque-là de Osée. Et fait que le pays vacille régulièrement au bord de la guerre intertribale. Israël a besoin d'un roi désigné par Dieu. D'où va venir aussi après ça David. Le modèle tragique des juges annonce la phase suivante de la grande histoire de la rédemption de Dieu qui commencera à avancer considérablement à travers l'histoire de Ruth et de son arrière-petit-fils, David. Parce que oui, Ruth est l'arrière-grand-maman de David. Et là, tout à coup, l'espoir va naître à partir de cette histoire de Ruth. Nous avons donc besoin de la loi de Dieu. Nous avons besoin de Dieu comme roi. Retenez ceci. Nous avons besoin de la loi de Dieu pour ne pas être là. Et nous avons besoin de Dieu comme roi. Répétez-le après moi. J'ai besoin de Dieu comme roi. Dites-le avec moi. J'ai besoin de Dieu comme roi. Indépendamment du gouvernement qui est là, indépendamment de qui gouverne ma famille, indépendamment de comment va bien ma ville, mon village, mon quartier, dans mon travail, j'ai besoin que Dieu, que Christ, son Fils, soit roi dans ma vie. J'ai pas besoin que mon pays suive le Seigneur pour suivre Dieu. Est-ce que Christ, est-ce que Dieu est le roi dans ta vie? Ou es-tu pris dans un chaos moral, spirituel, civil, comme ici? Il y a de l'espoir. Parce que regardez bien, en terminant, la solution se trouve à Bethléem. Bethléem est la ville dont un Lévite pas d'allure va embarquer dans de l'immoralité de culte, d'adoration, de statue dans le chapitre précédent. Il fait honte à Bethléem. Dans cette histoire, cette femme est de Bethléem et cet homme-là va la chercher à Bethléem. Jusqu'à présent, Bethléem paraît pas bien. Et pourtant, Bethléem, Dieu va faire grâce, Bethléem va être le lieu où va naître notre Seigneur. Ça, c'est intéressant. Dans le livre des juges, comme Bethléem n'est pas un lieu reluisant, d'histoires associées qui sont macabres, qui sont pas belles. Et pourtant, Dieu choisit Bethléem comme lieu de naissance de Christ. Ça nous ressemble pas, ça, nous autres. On est tous des Bethléem. Des villes avec une mauvaise histoire. Peut-être avec une mauvaise réputation. Avec des histoires de massacres. Des noms de famille avec des histoires honteuses. Des choses qu'on voudrait pas ramener. On est tous des Bethléem en besoin de grâce. Et Dieu choisit Bethléem pour faire naître son fils Jésus. C'est pas spécial, ça. Et c'est intéressant, l'histoire de Ruth se passe où? À Bethléem, la maison du pain. On va y être la semaine prochaine. À Bethléem, à la maison du pain. Où est-ce que Ruth va avoir son histoire? Puis Ruth n'est pas juive. Ruth, c'est une Moabite. C'est comme ça qu'un juif parlerait de Ruth. Une Moabite, juste de le dire, ça, C'est comme ça qu'il l'aurait dit. Puis le Seigneur va aller chercher une Moabit pour venir à Bethléem. Et là, tout à coup, une histoire incroyable va se passer. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dans le retour de Naomi à Bethléem, qui va rencontrer son Rédempteur. C'est pas anodin tout ça, vous voyez? C'est l'histoire de Jésus dans tout ça. Un précurseur du vrai Rédempteur. Il y a de l'espoir. J'aimerais vous dire ce matin, peu importe où vous êtes dans cette histoire, j'ai terminé, où vous êtes concerné dans les violences, dans les souvenirs que tout ça voulait, j'aimerais vous dire qu'il y a de l'espoir. C'est pas fini, l'histoire n'est pas terminée pour vous. Que votre personne qui vous a fait du mal soit vivante ou morte, que vous l'ayez pardonné aujourd'hui ou pas encore, que vous en ayez parlé ou pas encore aujourd'hui, il y a de l'espoir. Jésus-Christ a porté votre abus. Jésus-Christ a porté vous, peut-être que vous avez abusé, porté votre faute d'abuseur, de toute forme. Et Jésus a tout payé pour ça. À Bethléem, dans la personne de Jésus-Christ, il y a de l'espoir pour toutes les situations, pour de la guérison de l'âme, pour pardonner l'impardonnable, pour que le Seigneur fasse justice et de laisser lui s'en occuper si je ne peux pas rien faire, et de trouver une paix malgré tout. Ce n'est pas facile lorsqu'on doit revoir la personne qui nous a fait du mal. Comment gérer ça au quotidien? Christ peut faire toute la différence pour rendre l'impossible possible. Mais tournons-nous vers lui ce matin. Tournons-nous vers Bethléem, le lieu de sa naissance, vers le roi qui est né et qui va être mon roi dans ma situation. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, bien humblement, nous nous présentons devant toi, brisés tous dans un monde brisé, brisés par des souvenirs, par des histoires qui nous troublent, qui nous hantent, brisés par des violences de toutes sortes. Hommes, femmes, enfants, adultes, personnes âgées. C'est pas le fun d'en parler, Seigneur. C'est pas le fun de parler de l'histoire des autres non plus, comme de cette femme sans nom, cette concubine sans nom. Ça nous fait mal au cœur, Seigneur. Elle n'a pas continué à vivre, elle est morte après les sévismes. D'autres se sentent mortes, d'autres se sentent morts présentement après les sévices parce qu'ils sont encore vivants sur terre, mais brisés et morts à l'intérieur. Seigneur, est-ce que tu peux amorcer ce matin un œuvre de guérison, un miracle d'intervention pour qu'il y ait un pas en avant de progrès dans ce processus de guérison? On a tellement besoin de toi, Seigneur. Sans toi, il n'y a pas d'espoir. C'est toi qui fais les histoires de Ruth, les histoires de Naomi, et qui rend Bethléem un lieu tout à coup mémorable et pas juste de traumatisme. Est-ce que tu peux le faire, Seigneur, dans ma vie? Est-ce que tu peux m'aider, Seigneur, ce matin avec mes pourquoi? J'ai des pourquoi que je te dis depuis des années, Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à gérer mes pourquoi, Seigneur? Peut-être m'en donner une petite affaire. Tu pourrais-tu me donner, Seigneur, une petite bride qui m'aiderait à comprendre ce matin? Il me semble que ça m'aiderait. Un petit quelque chose pour me soulager, Seigneur. Il me semble que ça m'aiderait pour avancer à la prochaine étape. J'en ai besoin ce matin, Seigneur. J'ai besoin de ton aide pour te faire confiance, Seigneur, ce matin. J'ai des pourquoi qui me mènent de douter de toi. J'ai des pourquoi qui mettent en doute que tu es bon, Seigneur. J'ai besoin de ton aide ce matin. Seigneur, tu connais les larmes qui coulent dans les cœurs présentement ou les larmes qui coulent des yeux. Tu sais pourquoi. Tu connais les moindres détails. Et Seigneur, ce matin, j'aimerais te demander de nous aider. On a besoin de toi. Notre âme est brisée, comme cette femme a été brisée. Et on a besoin de toi, Seigneur, pour nous relever parce qu'on a une grande valeur à tes yeux. Créé à ton image. Puis on vaut tellement cher que tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver, Seigneur. Est-ce que tu peux nous relever, Seigneur, ce matin? Un peu plus, un pas plus loin, un pas plus proche de toi. Pour saisir par la foi ce que tu m'offres. pour arrêter de me torturer, de me traîner dans la boue comme l'ennemi veut le faire, me garder brisé, humilié, honteux. Seigneur, relève-moi, s'il vous plaît. On a besoin de ton aide. On te supplie ce matin, dans le nom de Jésus. Nous en avons besoin. Pour ta gloire, pour vanter ce que toi, tu vas faire en nous, pour vanter ce que tu as fait comme restauration et pouvoir prendre soin de quelqu'un plus tard. Qu'est-ce que tu veux faire avec ma brisure, Seigneur? Qu'est-ce que tu voudrais faire dans ma vie pour la rendre unique et m'amener à faire du bien à quelqu'un d'autre avec ce que de mal qui s'est passé dans ma vie? Seulement le Créateur peut le faire, Seigneur. Nous avons besoin de restauration, Seigneur, ce matin, et nous te le demandons collectivement, individuellement, dans les larmes, Seigneur, dans les souffrances et les souvenirs difficiles. S'il vous plaît, Seigneur, viens intervenir. Amène-nous un peu plus loin. Et que comme Église, on puisse avoir un impact dans notre ville à cause que tu guéris nos âmes. Et nous te le demandons tous, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus.